Vous écoutez France Musique.
Merci Rodolphe Bruno Boulmier.
Et à la semaine prochaine.
Leur belle saison. Nicolas Lafitte et Jean-Baptiste Urbain.
Si jamais la vie veut qu'elle rencontre un metteur en scène de cinéma ou de théâtre, elle a les épaules d'une très 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 grande comédienne.
Je crois que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas et qu'elle a toujours eu, c'est l'envie de raconter des histoires aux gens en fait.
Bonjour et bienvenue, bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Nicolas.
Ils sont jeunes, ils ont du talent, beaucoup de talent, et cette année ce talent a éclaté au grand jour. C'est donc leur belle saison que chaque dimanche sur France Musique nous racontons avec eux. Et à nos côtés aujourd'hui Jean-Baptiste, nous avons l'une des chanteuses que toutes les maisons d'opéra convoitent.
Oui, en 2012, elle a été sacrée révélation lyrique aux victoires de la musique classique. Cette année rebelote avec ces mêmes victoires artistes lyriques cette fois, la consécration. Elle a été Maria dans La Mélodie du bonheur, Ciboulette, Salfavar à Paris, Morgana dans Alcida aux côtés de Cecilia Bartoli. Elle a chanté sous la direction d'Hervé Niquet, de Jean-Claude Malgloire, de Laurence Equilbé ou encore de Christophe Rousset. Aujourd'hui, sur France Musique, c'est la belle saison de Julie Fuchs.
Sous des voiles.
Claude Debussy, Nuit d'étoiles, Julie Fuchs et Alphonse Semain. Bonjour Julie Fuchs.
Bonjour.
C'est un bonheur de vous avoir parmi nous aujourd'hui sur France Musique et on vous remercie de tout cœur, car pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, Julie, il faut quand même dire que tous les yeux dans le monde musical classique sont rivés vers vous.
Les critiques, et les oreilles.
Et les oreilles, bien sûr. Les critiques vous encensent, le public vous adore. Et comment vous vivez tout ça du haut de votre jeune âge?
Bah du coup, on est obligé de tout bien faire. C'est pénible. Non, mais c'est formidable ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est une grande pression aussi parce qu'on veut bien faire. Et quand on est au début d'une carrière, on veut encore plus bien faire, je crois. Voilà. Et puis, quand on nous donne des récompenses, on a envie de montrer qu'on les mérite et que, voilà, qu'on veut rendre aussi l'appareil aux gens qui nous font confiance. Donc voilà, c'est un peu de pression, mais c'est formidable de faire autant de musique au cours de l'année, c'est génial.
Et justement, vous avez parlé de récompenses, vous en avez eu une belle cette année avec les Victoires de la musique dans la catégorie artiste lyrique de l'année, c'est quand même merveilleux. Est-ce que c'est peut-être votre plus beau souvenir de la saison ou il y en a d'autres?
Bah, c'est un peu particulier, j'ai l'impression que c'est un peu un univers parallèle, c'est-à-dire que si je dois parler de plus beaux souvenirs professionnels ou artistiques de la saison, je penserais peut-être plutôt à la production d'Alcina que j'ai faite à Zurich cette année, qui était, je crois, une production très réussie et qui m'a beaucoup apporté scéniquement, vocalement, artistiquement. Après, c'est vrai que c'est un beau souvenir, les victoires, parce que c'est une dose de quelque part d'amour, enfin d'une forme d'amour, de reconnaissance qu'on reçoit. Mais j'essaie de garder en tête qu'on fait notre métier sur scène et pas forcément devant la télé, et que c'est une belle reconnaissance, mais que tous les jours, il faut quand même continuer à travailler et à donner, et à faire du mieux qu'on peut.
Et justement, comment, quand vous regardez ce qui vous arrive aujourd'hui, ce qui vous est arrivé toute cette saison passée, comment les choses se passent? Est-ce que c'est quelque chose que vous construisez ou vous y allez comme ça et on verra bien?
Je ne sais pas, quand on me demande depuis quand est-ce que tu vas être chanteuse, je me rends compte qu'en fait, ça ne fait pas longtemps et que c'est venu assez naturellement. J'ai toujours fait de la musique, mais c'est venu assez naturellement le fait que je savais chanter. Après, j'ai travaillé évidemment pour pouvoir savoir ce que je faisais, comprendre ce que je faisais. Mais c'est venu assez naturellement, donc je n'ai pas l'impression de construire quoi que ce soit. J'ai plutôt l'impression de consolider, d'asseoir des choses que j'ai déjà en moi. Et c'est surtout le rythme de vie qui est plus compliqué à assumer.
Qu'est-ce que c'est justement la vie quotidienne d'une chanteuse lyrique, d'une diva, on pourrait dire,
de 30 ans? Ça fait un peu peur ce mot, mais non, je ne sais pas, en tout cas ma vie quotidienne, en tout cas ce que je peux en raconter, c'est... On bouge assez, hein, on est assez mobile, on n'est jamais au même endroit plus d'un mois et demi. Donc voilà, c'est beaucoup d'adaptation. Il faut s'adapter à des villes, à des gens, à des artistes. Et donc voilà, c'est beaucoup d'adaptation, je dirais, et beaucoup d'énergie.
Surtout qu'il faut quand même rajouter que vous êtes rentrée en début de saison à Zurich, dans la troupe de l'Opéra de Zurich.
Ouais, voilà, donc c'était encore une autre forme de métier, une autre manière d'être chanteuse quelque part, mais qui m'a fait du bien, je crois, justement, à cette période-là de ma vie, parce que ça me permet de... J'ai une petite routine qui s'installe là-bas, puisque justement, je ne change pas d'endroit tous les mois, et je connais les gens avec qui je travaille, il y a une confiance, il y a un grand professionnalisme, et puis il y a de très belles rencontres. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien d'être... de vivre à Zurich plusieurs mois d'affilée. Ça m'a, je pense, aidé à vivre tout le reste de manière assez sereine.
Et il y a eu autre chose cette année, ça a été la création de De quoi j'ai l'air, qui est une sorte de one-woman show lyrique que vous faites. Un truc assez extraordinaire et je suis allé voir deux de vos collègues du spectacle. On va écouter ce qu'ils pensent de vous.
C'est la première fois que je travaille avec Julie Fuchs et en fait, c'est pas vraiment la première fois. L'année dernière, on a fait une émission de radio, un mardi idéal avec elle. Et c'était pour le coup une des premières fois que je travaillais avec le balcon. Et j'ai un souvenir de deux airs qu'on a joués ensemble où je me suis dit, elle est juste incroyable. Et cette année, quand Maxime Pascal, le chef du balcon, m'a appelé pour me proposer le spectacle avec Julie, j'ai à peu près refusé tout ce que j'avais à faire pendant cette période-là parce que je me suis dit que c'était une chance assez... assez incroyable de travailler avec elle. Et en fait, elle est c'est tellement facile pour elle, tout est si simple, même le contact humain est simple, son contact avec les œuvres est simple, et du coup les répétitions se sont passées de la même manière, et avec une fraternité que j'ai rarement connue dans d'autres ensembles et dans d'autres orchestres. Et finalement tout a été très vite, et je pense qu'on était tous très contents d'être là, et elle aussi, et du coup ça a fait une semaine à Avignon pour la première, assez inoubliable.
Ce qui la caractérise, sa voix, tout le monde entend sa voix et tout le monde peut ressentir des choses différentes en l'entendant, mais ce qui est particulièrement exceptionnel, c'est la manière dont elle s'en sert, la manière dont elle s'amuse avec elle, surtout son rapport au texte en fait. Quoi qu'elle chante, même si c'est dans une langue qu'elle ne comprend pas du tout, on va toujours avoir l'impression qu'elle nous raconte une histoire, qu'elle nous dit des mots qu'on comprend, même si c'est du tchèque ou du polonais. Je crois que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas et qu'elle a toujours eu, c'est l'envie de raconter des histoires aux gens, en fait. Elle affronte tous les types de textes avec le même sérieux, le même engagement. Elle donne elle-même, en fait, dans tout ce qu'elle dit. Mais ça, je crois que tout le monde le ressent, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles elle émeut les gens, je crois.
Vous les avez reconnus, Julie ?
Elisa et Alphonse.
Exactement, Elisa Hutto, qui est violoncelliste dans le spectacle, ouais. De quoi j'ai l'air. Et Alphonse Semain, qui est un vrai partenaire de route, pour le coup. Ouais. On parlera de lui tout à l'heure. Ça a l'air bien de bosser avec vous, quand même.
Mais c'est pareil, c'est bien de bosser avec eux. C'est des belles rencontres, j'ai tellement de chance. Et j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais réussir à préserver du temps pour continuer à faire de la musique avec mes amis.
Alors moi, je vous connais moins que Nicolas, Julie, mais la première fois que je vous ai vu sur scène, je m'en souviens, c'était à Paris, et vous nous appreniez le solfège.
Je vais vous expliquer ça un petit peu mieux. Do, le do du cachalot, ré, poisson volant dans l'eau. Miaou, fait le petit chat, fa, Bambi le fond des bois. Sol, solfège des animaux, la, lapin dans un chapeau. Si, cigale et la fourmi.
Un extrait de The Sound of Music, ou plutôt La Mélodie du Bonheur, puisqu'il s'agit de la version française. Richard Rodgers, c'était il y a un an à Orange pour la fête de la musique. Cette Mélodie du Bonheur, Julie Fuchs, vous étiez Maria au Théâtre du Châtelet à Paris, c'était il y a 5 ans presque déjà. Qu'est-ce que ça a changé ?
C'était ma première production professionnelle, The Sound of Music. Concrètement, ça, d'abord, j'ai travaillé avec un coach anglais tous les jours qui me torturait. Donc, je pense que, premièrement, ça m'a apporté une bonne diction anglaise dans mon chant. Donc, déjà, ça, c'est pas négligeable. Mais surtout, j'ai été très stressée. Enfin, stressée. Oui, un petit peu quand même. Je me demandais ce que je faisais là. J'étais encore étudiante à l'époque. Et du coup, j'avais du mal à me sentir immédiatement à l'aise. J'étais en deuxième distribution, donc c'est aussi particulier comme place parce qu'on sait qu'on doit laisser passer la première distribution dans les répétitions. Donc, on est beaucoup en observation. Puis le moment où on met le pied sur scène, ben, on n'a plus beaucoup de temps pour nous, mais il faut quand même être très efficace. J'avais quand même 9 représentations, donc ce n'était pas rien. Donc, j'étais assez stressée et finalement... J'ai quand même pris beaucoup de plaisir, surtout dans toutes les scènes que j'avais avec les enfants. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait juste être vrai. Et c'était particulièrement vrai avec les enfants. C'est-à-dire que quand on est en scène avec eux, ils m'ont appris plein de choses. C'est-à-dire que si on n'est pas vrai avec eux, ils vont nous renvoyer quelque chose de faux. Et si on est vrai, bah, ils vont nous renvoyer quelque chose de vrai. Et je crois que c'est assez valable dans tout ce qu'on fait sur scène. Il y a une vérité à chercher, même si elle passe par l'artifice, mais il y a une vérité à chercher. Et donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus. Et puis, la production d'après, je me suis dit, allez, maintenant, on y va, on n'a plus peur, on est content. Et donc, ça, voilà, ça m'a mis un peu, je veux dire, du plomb dans la cervelle.
Alors Julie, on a voulu en savoir plus sur vous. Et Nicolas Lafitte, le garçon à ma gauche, a rencontré quelqu'un qui vous connaît très bien et depuis, mais alors très, très longtemps.
Vincent Fuchs, vous êtes le frère de Julie Fuchs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment elle était, la petite Julie ?
C'était déjà une artiste dans l'âme, mais bizarrement, c'est par la danse qu'elle a commencé, puisque quand la première fois elle a poussé la porte d'un opéra, c'était pour faire de la danse avec sa classe de CP. Et c'est quelques années plus tard que j'ai eu le plaisir de lui faire découvrir l'opéra. Alors, elle devait avoir à peu près 8-9 ans, moi j'en avais 14-15, et je lui dis, tiens, il faut que tu viennes voir l'opéra, c'est pas mal, ça devrait te plaire.
C'était quoi comme opéra ?
Alors en fait c'était une opérette, c'était Nono Nanette, une comédie musicale anglaise avec évidemment de la danse, du chant, du théâtre, et je pense que c'est ce qui lui a plu un peu, ce mélange des arts, de la danse, art auquel elle a été toujours très attachée.
Mais c'est-à-dire qu'elle est ressortie de l'opéra, elle s'est dit c'est ça que je veux faire, ou c'est juste qu'elle a été sensibilisée à ce moment-là ?
Elle était sensibilisée. Après, elle a fait du violon, elle a fait toutes ses études musicales, mais je pense qu'elle était sensibilisée au spectacle vivant, en tout cas. Et après, pour ce qui est du chant, après, elle a toujours chanté, on a chanté ensemble, moi-même ayant fait des études lyriques également. On a même monté un groupe de jazz, de swing, de chansons françaises, où elle composait des chansons et elle les interprétait. Ça a duré comme ça quelques années. Puis après, elle est partie à Paris, au CNSM.
Mais justement, je l'ai entendu chanter une fois avec sa voix de variété. J'étais très, très surpris parce que souvent, les chanteuses lyriques ont un petit peu de mal à interpréter le répertoire de variété. Et elle, c'est absolument magnifique. En fait, elle pourrait même faire une vraie carrière dans la variété.
Oui, ouais, certainement. Surtout que, comme je vous le disais, elle a ce talent d'auteur-compositeur également. C'est vrai que c'est assez rare. Et elle sait justement varier entre les deux techniques et on va dire... vraiment interprétée à la façon variété ou même jazz, puisque elle aime particulièrement également ce style de musique.
On m'a dit que vous étiez son plus grand fan. Quel regard vous portez aujourd'hui sur sa carrière ?
Bah, c'est vrai que moi, je la suis évidemment le plus possible. Je vais voir ses concerts dès que je peux et elle vient voir les miens également, parce que moi aussi, je suis dans la musique. C'est vrai qu'on se suit beaucoup. Mais pour moi, ça reste toujours ma petite sœur. C'est vrai que quand je vais la voir au concert, quand je suis avec elle dans la loge après, et qu'il y a beaucoup de monde qui vient la voir, qui vient la féliciter, pour moi, j'ai du mal à la considérer comme la voix française, comme certains peuvent le dire aujourd'hui. Pour moi, ça reste toujours ma petite sœur. Donc, je vérifie qu'elle ne manque de rien, qu'elle a tout ce qu'il lui faut. Mais voilà, je suis grand fan, mais je reste avant tout son grand frère.
Et Vincent, vous êtes venu avec une petite surprise avec votre fille, donc qui est la petite nièce de Julie. Bonjour Liwen.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Bien.
Comment tu la trouves, Tata ? Tu l'as déjà vue sur scène ?
Oui, j'adore ses robes parce qu'elles sont jolies.
Ah, c'est pour ses robes surtout, et sa voix ?
Non, et sa voix, parce qu'elle chante super bien. Oui, plus grande, je voudrais être comme elle, parce qu'elle chante super bien. Et je voudrais qu'elle me donne des cours.
Ah, très bien, on va lui demander alors si elle est d'accord pour te donner des cours. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ?
Que je l'aime très fort.
Séquence émotion,
c'est trop mignon.
France Musique.
Et en plus, elle fait du corps, cette petite fille. Et elle en fait très très bien. Et c'est assez impressionnant. Moi, je suis impressionnée par elle.
Elle vous réclame des cours ? Est-ce qu'elle va être entendue ?
Bon, je sais pas. On a mieux à faire, non ? Que donner des cours. On va aller se baigner plutôt cet été.
Ça vous intéresserait d'enseigner ou c'est trop tôt ? Beaucoup trop tôt ?
En fait, j'ai vraiment sérieusement pensé. J'ai même commencé à passer les examens quand j'étais étudiante encore pour être professeure. Mais je me suis rendu compte que, qu'effectivement, c'était trop tôt. Moi-même, je ne savais pas encore assez techniquement de choses, je trouve. Et puis, je pense que l'enseignement du chant... Enfin, la pratique du chant, elle passe tellement par la scène et par l'expérience vraiment de l'instant que sans avoir expérimenté ça jusqu'au bout, je pense que c'est difficile de... Voilà, je suis un peu au milieu d'un processus pour l'instant et j'attends de l'avoir fini celui-là pour entamer un autre.
Alors, retour en arrière, votre formation, vos professeurs à vous, qui vous a marqué ? On ne va pas faire la litanie des professeurs, mais qu'est-ce qui vous a marqué dans votre formation ?
Non, mais je suis contente que vous posiez la question parce qu'effectivement, je pense que je dois beaucoup à mes professeurs.
Qui s'appelle ?
Je pense mon premier professeur, c'est-à-dire mon professeur de violon, Chantal Rodier, qui m'a transmis des belles valeurs et une espèce de truc complètement intense et passionné qui me poursuit encore, je pense. Mon premier professeur de chant, Pierre Guéral, qui m'a donné beaucoup de confiance en moi à une époque où j'en avais besoin, je pense. Et ça, c'est très important, surtout dans la pratique du chant. Et puis mes professeurs de solfège, mes professeurs de français, je dirais, parce qu'ils m'ont donné le goût des mots et de la poésie.
Et Julie, on entendait ici que vous aviez fait de la variété, notamment avec votre frère, et que vous composiez, écriviez même encore des chansons, c'est le cas ?
Ben, en fait, depuis que je suis heureuse, j'y arrive plus trop. Donc voilà, puis j'ai plus trop le temps, puis j'ai plus forcément un piano sous la main tout le temps, mais oui, je faisais ça. Et ça me faisait beaucoup de bien, mais je sais pas. Maintenant, je suis trop entourée de musiciens formidables et j'ose plus... faire des choses aussi simples. C'est un peu bête, hein, je pense. Mais...
Surtout que vous avez une magnifique voix de variété, je le disais tout à l'heure. Et du coup, on va en entendre un extrait pour nos auditeurs.
C'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour est fleuri quand même à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans. Ah, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'aube grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Serait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Göttingen de Barbara, interprétée par Julie Fuchs dans une émission d'Ariel Buteau, un mardi idéal. Et vous étiez avec Giovanni Mirabassi. Vous êtes toujours bien entourée, Julie. Toujours. Comment vous faites le choix de vos partenaires?
Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est le secret. Il faut être bien entourée, c'est tout.
Comment vous avez rencontré, d'ailleurs, on l'entendait tout à l'heure, Alphonse Semain, qui, je pense, est la personne qui vous connaît le mieux et avec qui vous travaillez très, très souvent.
Au piano.
Oui, oui. En fait, on s'est rencontrés assez tôt. Dans nos parcours respectifs, je pense que c'est ce qui fait aussi la force de notre lien, c'est qu'on a grandi aussi artistiquement ensemble. On s'est rencontrés en deuxième année de conservatoire à Paris. Moi, je cherchais à faire une classe de musique de chambre, mélodie ou lead. Et donc, il y avait la classe de Jeff Cohen qui était ouverte, il restait des places, mais il fallait s'y présenter en duo déjà constitué. Et moi, je ne savais pas, je venais d'arriver, ça faisait qu'un an que j'étais à Paris, je ne connaissais pas vraiment les pianistes. Et donc, je me rappelle très bien, la chargée de scolarité m'a dit, voilà, il y a trois pianistes qui cherchent des chanteurs. Et elle m'a montré les photos.
Il a été choisi sur photo, donc c'est ça.
Exactement. Sur photo et CV quand même, hein, il y avait un petit CV. Non, mais j'ai vu sa tête, j'ai trouvé qu'il avait l'air sympa. Et puis surtout, je savais qu'il avait déjà travaillé avec des chanteurs, mais qu'il n'était pas tout à fait dans le... qu'il accompagnait aussi beaucoup d'instrumentistes et que j'avais vu qu'il était assez polyvalent. Et donc, je me suis dit, essayons. Puis on s'est rencontrés, on a travaillé une demi-heure ensemble dans un petit studio du conservatoire. Et tout de suite, on avait la même énergie, la même évidence, le même rapport direct à la musique, assez simple. Et voilà, on s'est plu mutuellement et on est rentrés dans la classe ensemble de Jeff Cohen. On a travaillé ensemble un an dans cette classe-là. Et donc, on a déblayé plein de choses dans le répertoire. Et puis, on ne s'est plus jamais quitté.
Et vous n'êtes plus jamais quitté. Et puis, il y a l'aventure du balcon qui commence à ce moment-là.
Oui.
Il faut raconter quand même à nos auditeurs, s'ils ne nous ont pas suivis.
Ah oui, c'est quoi le balcon?
Ce qu'est le balcon?
Ouais.
En fait, le balcon, c'est un orchestre créé par 6 personnes, notamment Alphonse Semain, le pianiste avec qui vous travaillez très souvent.
Ouais.
Il y a Maxime Pascal, qui est quand même son chef charismatique. Et c'est un orchestre un petit peu particulier parce qu'en plus, ils sont sonorisés. Et puis, ils vont vers des répertoires qui ne sont pas souvent joués, notamment par les jeunes, le répertoire contemporain. Et vous, vous êtes rentré dans cette bande, dans cette clique.
Ouais, avec beaucoup de bonheur. En fait, j'ai d'ailleurs même fait leur premier concert. J'ai un peu essuyé les plâtres de leur premier concert. On avait fait les 3 poèmes de Mallarmé de Ravel, sonorisés. Et alors, on ne fait pas que des choses sonorisées, mais c'est vrai que c'est quand même la marque de fabrique. En tout cas, il y a une grande recherche sur le son, de manière générale. Et puis surtout, il y a une atmosphère incroyable. Enfin, tous les musiciens qui ont travaillé avec le balcon ont du mal à travailler avec d'autres ensembles après, quand même. Parce qu'il y a une espèce d'énergie et de témérité, j'ai envie de dire. Enfin, on s'en fiche, tant qu'on est ensemble, on peut aller n'importe où. Et c'est un sentiment tellement agréable, surtout dans ce milieu où on ne sait pas trop si on est vraiment seul ou si on est vraiment accompagné. Et là, on sait que quand on est ensemble, rien ne peut nous arriver, quoi.
Vous avez choisi sur photo aussi?
Non, c'est eux qui m'ont choisi sur photo. Là.
Et vous ont certainement choisi aussi pour votre voix. Et justement, on va écouter quelques témoignages sur votre voix. Elisa, vous qui êtes violoncelliste, on compare souvent le violoncelle à la voix.
Ouais.
Vous en pensez quoi de la voix de Julie?
J'espère qu'elle n'écoutera jamais cette interview parce qu'elle risque d'avoir les chevilles qui enflent. Je trouve qu'elle contient tout. Et je trouve que l'aisance qu'elle met dans tout le répertoire qu'elle interprète... Enfin, j'aimerais jouer comme elle chante. Je pense qu'il ne faut jamais que ça sorte d'ici. Non, Oh là, c'est le bazar. Je me suis dit aussi en l'écoutant qu'il n'y a pas de hasard avec notre métier et que quand on a une voix comme ça, personne ne peut passer à côté. Et que vu la carrière qu'elle a aujourd'hui, c'est même pas que c'est mérité, c'est que c'est naturel. Ça doit être comme ça.
C'est quelqu'un qui sait aussi bien ce qu'elle veut. Parce que les chanteurs sont quand même bombardés de conseils tous les jours par des pianistes, des chefs de chant, des chefs d'orchestre, des coachs de langue, des coachs de ci, de ça. Et elle a quand même ce truc qu'elle trace sa route et qu'elle se fait confiance. Elle se connaît bien.
C'est quelqu'un qui a cette liberté intérieure, innée, de pouvoir être toujours sincère, quoi qu'elle fasse. Et quand on est sincère, forcément, et généreux, ce qui est son cas, forcément on est émouvant ou on fait rire. En tout cas, on touche le public, ça c'est clair.
Voilà, à nouveau Elisa Hutto et Alphonse Semain. Et puis il y avait également dans ce petit témoignage Agnès Muckensturm qui était la dramaturge de votre spectacle « De quoi j'ai l'air ». Alors vous, Julie, comment vous la percevez, votre voix ? Qu'est-ce qui, à votre avis, la caractérise ?
Ah, c'est horrible comme question. J'arrive pas à la dissocier, en fait. Ma voix, elle est rien, en fait, si ce n'est ce que j'en fais et ce que j'en fais avec les autres. Et ma voix, je sais pas. Moi, je dirais concrètement que c'est la voix d'une femme.
Jusque-là, tout va bien.
Que c'est une voix jeune et que j'espère qu'elle le restera encore longtemps. Je pense qu'elle est relativement souple, que j'arrive à en faire des choses, à la modeler selon ce qu'un chef me demande ou même ce qu'un metteur en scène me demande. Après, je pense qu'elle a encore plein de possibilités et heureusement. Et j'espère pouvoir encore explorer plein de choses grâce à ce moyen, finalement. Parce que pour moi, c'est qu'un moyen. Voilà, la voix est un moyen.
On lit souvent qu'elle est solaire dans des articles qui vous concernent. Ça vous évoque quoi ?
Ça me fait plaisir. Et puis, du coup, je me sens encore un petit peu proche de ma région solaire aussi. je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un adjectif qui est plutôt flatteur pour une voix.
Allez, retour en arrière. C'était il y a 2 ans, dans ces murs, à nouveau, au studio 105, le concert des révélations des victoires.
So
Un extrait des Capulet et des Montaigu, c'était le concert des révélations des victoires de la musique. Bellini, bien sûr, Julie Fuchs et votre pianiste accompagnateur choisi sur photo, Alphonse Semain. Ça fait quoi d'entendre ça 2 ans après ?
Oh là là, ça fait bizarre. C'est surtout que je me rappelle en fait dans quel état j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire un moment de grand stress, de grande solitude, hein, clairement. Donc voilà, ça me rappelle ça. Et puis c'est drôle parce qu'en fait, ce morceau-là, je l'ai retravaillé pas plus tard qu'hier, en fait. Justement parce que je me suis dit qu'il fallait que je le rechante un peu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas chanté, je pense, depuis cet enregistrement. Et donc, du coup, c'est marrant de le retravailler. Justement, je l'ai retravaillé, voilà, 2 ans après. Et c'est chouette de voir comment la voix évolue et comment on peut toujours s'améliorer.
Alors avec Bellini, on est dans le bel canto, dans le théâtre musical, avec ses passions. Vous êtes Juliette, il faut faire pleurer le public. Comment vous est venu ce goût du théâtre ? Est-ce que vous êtes autant actrice que chanteuse ?
Ah ben j'aime bien penser à mon métier comme ça, oui. Et c'est pour ça, je pense que je suis chanteuse d'opéra. C'est parce que j'aime bien jouer, je dirais même que j'en ai besoin. C'est tellement plus facile d'être derrière un personnage que d'être soi-même. C'est bien plus facile. Voilà, j'ai toujours aimé inventer des choses, oui. Et être dans une autre réalité, être ailleurs, ça m'a toujours plu.
Il y a un comédien de théâtre très connu, très populaire, qui vous adore. Il s'appelle Georges Belair et Nicolas Lafitte l'a rencontré.
J'adore son travail, sa fraîcheur et sa spontanéité. Et en même temps, derrière, il y a un travail colossal. C'est une travailleuse, c'est une très, très grande comédienne. Elle pourrait demain arrêter, j'espère jamais, parce que cette voix-là, on n'arrête jamais. Mais si jamais la vie veut qu'elle rencontre un metteur en scène de cinéma ou de théâtre, elle a les épaules d'une très, 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 très grande comédienne. Et j'ai donc partagé, moi, cette aventure My Fair Lady avec elle, j'ai été ébloui tous les soirs. Mais comme le public, hein, sur scène, elle rayonne, elle nous régale. Et en même temps, elle a une naïveté de jeu exceptionnelle. Ça faudrait qu'elle le garde toute sa vie. C'est une sorte d'ange qui parle et qui a une force en même temps. C'est pas niais, c'est un travail très profond, très vrai, très, très fort et qui atteint sa cible à chaque fois, hein, y compris ses partenaires. Elle a la sagesse d'un vieillard, elle a la jeunesse d'un enfant de 8 ans, je crois qu'elle n'a rien à apprendre des autres, elle a tout en elle. Je sais pas comment ça se fait, moi je ne suis pas un psy, mais c'est extraordinaire. Elle a une maturité tout en étant une enfant. Le seul conseil, c'est qu'elle ne change surtout pas, quoi, hein, que la vie, surtout ce métier, ne l'abîme pas. C'est vraiment un diamant magnifique.
Bon, avec Georges Belair, c'est sujet, verbe, compliment, et il vous aime, c'est une déclaration d'amour.
Moi, je l'aime aussi.
Julie, on va vous entendre maintenant dans un superbe enregistrement. En tout cas, nous, on l'a adoré avec Jean-Baptiste au bureau. On écoute ça tout de suite. Oh. Das Lied der Trennung, Mozart, Julie Fuchs, ici avec Rémi Cardinal au piano. Mozart, que vous aimez particulièrement, Julie, il me semble.
Ouais. je suis encore un peu dans l'ambiance, là. Oui, j'aime bien, je me sens bien avec lui. Je me sens privilégiée quand je chante des choses qu'il a écrites.
Très bien. Et les opéras de Mozart?
Ben, je trouve qu'en plus, dans ses opéras, il a réussi à s'entourer quand même d'un... En tout cas avec Daponte, et d'un librettiste assez extraordinaire. Et du coup, de jouer du Mozart, c'est toujours plein de possibilités. On peut aller dans plein de directions différentes, je trouve. Et ça, c'est chouette.
Julie, quand je disais en début d'émission que même les critiques vous encensent, eh bien, vous allez l'entendre ici avec ce témoignage un peu plus long que les autres. Mais parce qu'il résume bien tout ce que vous êtes en tant que chanteuse, il s'agit de Richard Marté, d'Opéra Magazine. Je lui ai demandé tout d'abord son premier souvenir de vous écouter.
Je m'en souviens très bien, c'était dans My Fair Lady à Metz. Donc My Fair Lady en français. Et j'ai été complètement ébloui par ce qu'elle faisait. J'ai été surtout ébloui par une extraordinaire chanteuse-actrice, d'un talent phénoménal, avec un charme fou. Un charme vocal et un charme scénique, c'est très important dans Eliza Doolittle, vous le savez. Donc c'est vraiment un truc qui m'a sauté à la figure, quoi. Pas seulement à l'oreille, à la figure. J'ai trouvé qu'elle avait un naturel extraordinaire quand elle empruntait la scène. Vraiment tout ça explosait pour une très jeune chanteuse. S'il y a le premier mot qui, pour moi, qualifie Julie Fuchs, c'est le charme. Et juste après, coïncidence, j'ai vu sur Arte la messe en ut mineur de Mozart, où elle était, je crois, accompagnée par Laurence Équilbé, sauf erreur. Elle faisait donc le solo de soprano 1. Et là, alors le charme était toujours là, mais là, c'est une émotion irrésistible qui s'est emparée de moi devant mon écran de télévision. Et là, j'ai entendu autre chose. Une musicienne, mais quelqu'un surtout qui vivait la musique dans ses tripes, dans sa gorge, dans ses cordes vocales, dans ses yeux. Et ce qui passait, en plus, enlever les gros plans de la télévision, était absolument bouleversant.
Est-ce qu'il y a un conseil que vous lui donneriez ?
Je crois que je n'ai pas de conseil à lui donner pour une raison bien simple. Elle se débrouille extrêmement bien. Est-ce que c'est elle qui a ça ? Elle est, je pense, extrêmement bien conseillée. Vous savez, les chanteurs qui ne font pas d'erreurs, ce n'est pas la peine d'être toujours derrière eux. Ils n'ont pas forcément besoin. Il y a des chanteurs, c'est vrai, j'aimerais bien être leur mentor. Sans me jeter des fleurs, j'aimerais bien pouvoir leur dire « Attention, là vous partez dans le mur. Julie Fuchs, ce n'est pas la peine. Elle ne part pas dans le mur, elle est exactement sur la bonne voie. »
Voilà, c'était Richard Marté. Julie, quand on entend ça, on se dit que vous allez tout droit vers la cour des très grandes.
Bon, je ne sais pas trop. Ça m'impressionne un peu tout ça. Je crois qu'il faut continuer à toujours penser à la partition, parce que c'est ça notre fonds de commerce, notre base, et puis au plaisir qu'on a de chanter, mais pas seulement, de transmettre surtout, de partager. Et voilà, après, si ça peut me faire rencontrer encore d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres choses, tant mieux, mais voilà, je pense surtout à ça, au plaisir de chanter.
Et vos projets alors, vos rêves, quels sont-ils? Même les plus fous.
Il y a des rôles qui font envie, il y a des rôles que j'ai envie d'aborder un jour, je ne sais pas si je le ferai, je ne sais pas dans combien de temps. Mélisande, si, ça, je pense que Mélisande, je le ferai sans problème. Blanche de la Force, dans le Dialogue des Carmélites. Je pense surtout à des rôles français parce que j'aime me chanter dans ma langue, j'aime défendre mon répertoire. Après, il y a d'autres rôles que j'espère aborder un jour, Traviata et Loulou et plein d'autres choses. Ça, c'est mes rêves, en tout cas, artistiques.
Et des lieux, Opéra de Paris, par exemple?
Oui, mais ça va bientôt se réaliser. Alors, c'est déjà presque plus un rêve.
Et des idoles? Vous avez des idoles?
Non, j'ai pas d'idoles. J'ai des gens que j'admire, que j'aime écouter, que j'aime regarder, mais j'ai pas d'idoles.
Les projets, c'est aussi la vie personnelle, concilier vie professionnelle et vie personnelle, vie amoureuse notamment. Alors, mais ça ne nous regarde pas. Petit clin d'œil tout de même avec deux voix, deux grandes voix que vous aimez, Julie. Et ce petit bout de chanson, il est pour vous.
My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no song guitar. Doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by.
No month of May,
twinkling stars,
no hideaway,
no soft guitars.
My romance doesn't need a castle rising in Spain,
nor a dance to a constantly surprising refrain.
Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need.
Voilà, Frank Sinatra, Dina Shore, My Romance, Richard Rogers à nouveau, Julie Fuchs, grandes voix,
c'est magnifique.
The Voices.
Ça fait du bien, ça fait du bien, c'est simple, c'est direct. Et on aimerait bien trouver autant de spontanéité et de simplicité parfois dans des duos d'opéra.
Et bien merci beaucoup Julie Fuchs d'être venue.
Merci beaucoup.
Dans cette belle saison, votre belle saison.
Merci Julie, et puis merci à Jean-Charles Dieval qui a réalisé cette émission, à Cédric Chatelus à la technique. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même chaîne.